déclic, le tournant écologique avec Régis Debray et Olivier Rey. Le 12 septembre 2018, Charlie Hebdo publiait l'appel suivant. Nous ne reconnaissons plus notre pays. La nature y est souillée. Le tiers des oiseaux ont disparu en 15 ans. La moitié des papillons en 20 ans. Les abeilles et les pollinisateurs meurent par milliards. Les grenouilles et les sauterelles semblent comme évanouies. Les fleurs sauvages deviennent rares. Ce monde qui s'efface est le nôtre. Et chaque couleur qui succombe, chaque lumière qui s'éteint, est une douleur définitive. Rendez-nous nos coquelicots, rendez-nous la beauté du monde. À mes deux invités, Régis Debray, qui publie « Le siècle vert », et Olivier Rey, auteur entre autres de « L'heure et malheur du transhumanisme » et « D'une question de taille », je demanderai d'abord tout simplement, signeriez-vous aujourd'hui cet appel rédigé par Fabrice Nicolino ? Et au cas où vous me diriez que vous ne signez jamais de pétition ou d'appel, je reformule ma question, vous reconnaissez-vous dans l'inquiétude que celui-ci exprime ? Régis Debray.
Oui, comme vous l'avez dit, je ne signe pas de pétition. Mais je me reconnais bien entendu dans cette déploration, dans cette mélancolie que nous avons tous, parce que nous découvrons que ce que nous détruisons de la nature nous détruit nous-mêmes et que nous ne sommes pas seuls au monde et dans notre milieu et que avilir, dénaturer le milieu, c'est produire en nous une volonté de renaturation. Celui que vous citez, et j'imagine, n'est pas un agriculteur, n'est pas un marin-pêcheur. Je l'imagine plutôt un homme des centres-villes que de la Vendée. Parce que c'est quand on est hautement, technologisé ou dénaturé ou artificialisé qu'on a le plus besoin de petits oiseaux. Ce besoin de rusticité, nous le ressentons tous, d'autant plus que nous sommes urbanisés.
Alors, je crois que Fabrice Nicolino habite en Bretagne. Il n'est sans doute pas agriculteur, mais je crois qu'il habite en Bretagne. Olivier Rey, quelle est votre réaction ?
Effectivement, je ne signerai pas ce texte parce qu'il est signé par Fabrice Nicolino et c'est très bien comme ça. En revanche, je souscris absolument à ce texte que je trouve très beau et très bien rédigé, qui fait aussi écho à un texte qu'avait écrit il y a de ça bien longtemps Pasolini, qui s'appelait « La disparition oui. des Lucioles » et qui s'effrayait déjà de ce type de phénomène qui malheureusement n'a fait que s'amplifier.
Alors, question suivante. Diriez-vous que ce texte est représentatif de la sensibilité écologique de plus en plus présente aujourd'hui? Ou même, plus brutalement encore, est-ce que des écologistes encartés s'exprimeraient aujourd'hui ainsi? Régis Debray.
Écoutez, ne faisant pas partie du mouvement, j'ai du mal à parler au nom des écologistes. J'essaie simplement de savoir ce à quoi les écologistes peuvent nous faire penser. Je ne sais pas ce qu'ils pensent vraiment, mais évidemment, ce texte exprime une inquiétude, un désarroi. Ce texte exprime, représente un peu cette internationale de l'angoisse que j'évoque dans Le siècle vert. Et donc, en ce sens, oui, c'est un texte personnel, mais qui a un fond collectif évident.
Vous seriez d'accord avec ça ?
Oui, enfin, j'apporterai une nuance qui est que l'écologie politique ne s'exprime pas de cette manière-là. Ce qui me semble tout à fait significatif, c'est que là, Nicolino parle d'un rapport direct à un milieu, à la Terre, alors que le langage de l'écologie politique aujourd'hui, c'est plutôt de penser planète. En fait, vous voyez, dès qu'on se met à parler planète, on prend une situation de surplomb par rapport à la terre que nous habitons. Et c'est là où il se passe quelque chose d'assez curieux, c'est qu'à la fois, on a une critique de l'arraisonnement de la nature par la technologie auquel nous avons assisté au cours des derniers siècles, et en même temps, ce discours en épouse totalement l'esprit.
Oui, alors c'est justement là-dessus que je voudrais vous interroger plus précisément, et à partir de votre livre, Régis Debray. Vous dites, et c'est l'une des thèses fortes, que nous avons changé d'englobant. Nous sortons d'un long Moyen-Âge, la modernité, c'est-à-dire nous étions mus par l'idée de progrès, nous nous placions dans la perspective d'un temps prometteur, et l'englobant était l'histoire. Aujourd'hui, dites-vous, c'est la nature. Mais Fabrice Iaconino dit la nature. Et il parle de la beauté du monde. Or, les écologistes, justement, qui siègent au gouvernement ou dans l'opposition, n'utilisent plus, ou presque plus, le mot de nature. Ils parlent de biodiversité. Et à cet égard, je voudrais lire un extrait du livre de Rem Semproun, vous savez qu'il est le fils de Georges Semproun, « Défense et illustration de la novlangue française ». Une langue, justement, qui est celle de la technique et qui est celle, paradoxalement, des écologistes. C'est-à-dire, il faut faire l'effort, dit-il, de se souvenir qu'on n'a pas, par exemple, toujours connu et mesuré la biodiversité, mais qu'autrefois, un archéolocuteur devait se contenter de parler à ce sujet de l'exubérante prodigalité de la nature et autres clichés du même tonneau, dit-il avec ironie. Avec la novlangue, chacun ayant pris conscience, grâce à ce qui la menace, de l'existence de la biosphère, peut se soucier de sa gouvernance, tout comme de biovigilance et de traçabilité. Car ce que nous donne la nature, prise en charge par la science et transformée par la technique, ce ne sont pas des prétextes à effusion lyrique, ce sont des informations à modéliser. Alors, c'est là que j'introduis peut-être une correction. Le nouvel englobant, c'est peut-être pour notre malheur, justement. Non pas tant la nature que la biodiversité, Régis Debray.
Oui, alors vous me posez deux questions. La première, changement d'englobant, oui. Je dirais que loin d'une fièvre verte, nous avons un basculement. C'est-à-dire qu'au fond, nous sortons de l'ère chrétienne, tout simplement pour moi. Qu'est-ce que c'est que l'ère chrétienne? C'est l'introduction de l'éternel dans le temps, c'est-à-dire que l'intrigue de l'humanité est historique, n'est-ce pas? Il y a une marche vers. Une marche, c'est-à-dire qu'on avance. Dans l'Antiquité, on n'avance pas, on répète. Et vers, c'est-à-dire qu'il y a une finalité plutôt heureuse, qu'elle s'appelle rédemption ou révolution ou justice pour tous. Donc je crois qu'effectivement, nous sommes en train de sortir de l'idée d'accomplissement à travers le temps vers l'idée de sauvegarde de ce qui est déjà, si vous voulez. Donc là, je pense qu'il y a, comme je le dis, une formidable inversion des valeurs. Et c'est pourquoi il faut prendre au sérieux, malgré les côtés un peu, je dirais, le côté, malgré des catéchismes un peu, il y a vraiment une nouvelle dogmatique. Et je dirais que, pour moi, le mot de religion n'est pas un gros mot. La religion, c'est ce qui réunit, religaré. Il n'y a pas de société qui n'ait pas de religion. Nous sommes en train de changer de religion. C'est pas la même. C'est pas une religion verticale, c'est une religion horizontale. Ça, c'est un... Alors maintenant, rôle de la technique là-dedans. Oui, c'est vrai que on peut parfaitement soigner ces bêtes avec des techniques ultra développées tout en ayant un peu un rapport animiste avec son cheptel, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a, oui, nous sommes encore dans la technique, en ce sens que, oui, nous découvrons que nous sommes dépendants de notre esclave qui était la nature, donc nous lui accordons notre reconnaissance, comme le maître le fait à l'esclave chez Hegel, mais on essaie de s'en affranchir toujours avec des technologies. On est bio, mais on prend des antibiotiques, si vous voulez. Donc oui, nous n'avons pas quitté la technique. Je pense que nous y allons tout droit avec le sentiment de commettre un péché.
Olivier Rey.
Oui, c'est vrai que aujourd'hui, dans le domaine de l'écologie politique, on a à peu près délaissé le mot de nature pour lui préférer celui d'écosystème. Dans l'écosystème, il y a système. Et il y a une manière, en fait, de contester certains tropismes tout en les épousant dans le vocabulaire. Et ça va plus loin que dans le vocabulaire. Par ailleurs, pour ce qui est de l'englobant, on passerait de l'histoire à la nature. Moi, personnellement, dans mon expérience individuelle, j'ai plutôt l'impression qu'on passe d'un englobant qui était l'histoire à un englobant qui est ce que Jacques Ellul appelait le système technicien, que personnellement, je préfère appeler le système technologique pour faire la différence entre les techniques traditionnelles et les technologies modernes liées au développement aussi de la science moderne. Parce que le siècle vert, moi, j'aurais tendance à dire plutôt ciel que ce siècle fut vert, mais j'ai plutôt l'impression qu'il va être gris, marron, noir et très peu vert. C'est parce qu'il est de moins en moins vert qu'il y a une inflation du vert dans le vocabulaire.
Tout à fait.
Pourquoi vous dites qu'il est de moins en moins vert? Qu'est-ce que vous voulez dire?
C'est exactement ce que décrit Nicolino, c'est-à-dire la disparition de ce monde naturel. Si on prend vert comme un mot qui désigne précisément la nature. Aujourd'hui, si on écoute la radio, effectivement, tout est vert, on a de l'énergie verte. Avec l'installation d'éoliennes géantes dont l'ineptie écologique est à la mesure de leur monstruosité esthétique.
De la finance verte.
Oui, on a des BMW construit des SUV qui sont verts, de 200 chevaux et qui pèsent 2,5 tonnes, etc. Et qui sont prétendument respectueux de l'environnement. On a une croissance verte. Et là, vraiment, c'est un exemple paradigmatique de ce que Bertrand Méheux a appelé la politique de l'oxymore. Et donc, le vert prolifère dans le discours pendant qu'il disparaît dans les faits.
Et ceci, évidemment, ceci parce que cela.
Oui, mais alors, quand même, le vert disparaît dans les faits. Mais la question que je me pose aussi, c'est quel vert veut-on? Ce n'est pas tout à fait par hasard que le mot de biodiversité remplace celui de nature. Le regard technique s'empare aussi de l'écologie, dans ce qu'elle peut avoir d'apparemment positif. Vous parliez, Olivier Rey, de l'ineptie écologique des éoliennes. Mais enfin, elles sont introduites, les éoliennes, précisément pour concurrencer les énergies non renouvelables. Et on vous dit que avec les éoliennes, on limitera l'émission de gaz à effet de serre. Peut-être est-ce partiellement vrai. Il y a une difficulté après savoir ce qu'on fait des éoliennes une fois qu'elles sont devenues utilisables.
Oui, parce que le vent est renouvelable, mais pas l'éolienne.
Pas l'éolienne. Mais admettons qu'elles le deviennent. Je pense, moi, que tout cela témoigne d'une grande confiance dans les chiffres. Je crois que dans le discours écologique, il y a une obnubilation par les chiffres, par les nombres. Or, il y a aussi l'inquantifiable, le visage des choses, la manière dont elles nous apparaissent, la beauté du monde. Et les écologistes ne se soucient pas de la beauté du monde. Je voudrais vous soumettre une lettre que je ne vous demande pas de signer, je l'ai signée moi. Mais c'est une lettre au président de la République. Vous savez, entre le tout pétitionnaire et les quelques pétitions nécessaires, on peut choisir. Enfin, vous voyez, donc, moi, j'essaye de ne pas tout signer, mais quelquefois, il me semble nécessaire de donner ma signature. C'est une lettre au président de la République, écrite par Bérénice Levet, et qui va être publiée dans le magazine Causeur, à paraître ce mercredi. « Monsieur le président de la République, quiconque traverse la France en est le témoin. Partout se dressent des éoliennes, ces pylônes aux pales gigantesques, clignotant nuit et jour, les plaines céréalières, les collines provençales, les rivages des océans, aucun arpent de terre ni de mer n'est à l'abri. Objets industriels, fabriqués en série, elles uniformisent un pays, le pays au destiné duquel vous présidez, distingué d'entre tous pour la diversité, la variété, la beauté de ces paysages. Hors d'échelle, ces turbines accaparent la vue, écrasent ce qui les entourent. Ce ne sont pas des moulins, elles n'ont rien de bucolique, leur réalité est industrielle de part en part, notre œil est blessé, notre sensibilité affectée, notre sens du beau offensé. Hors de tout cela, les écologistes, qu'ils soient urbains ou non, n'ont cure aujourd'hui. Voilà pourquoi je me dis que quand bien même le siècle deviendrait vert au sens de l'écologie, eh bien, ceux qui veulent sauvegarder l'habitabilité de la Terre ne s'y retrouveraient pas. Régis Debray.
Moi qui ne signe pas généralement, j'aurais peut-être effectivement ajouté mon nom au vôtre sur ce point. Mais cela dit, attendez, nous sommes au XXIe siècle. Les écologistes ne sont pas ni Chateaubriand, ni Lamartine. Ils ne regardent pas la nature, ils n'ont pas le sentiment romantique de la nature. Ils sont inquiets simplement des sources d'énergie. Parce qu'il faut faire tourner la machine, et donc c'est vrai qu'ils ont, encore une fois, une relation productiviste à la nature. Cela dit, mon cher Alain, moi, je sens pointer en vous et en mon interlocuteur quelque chose qui n'est pas mien, c'est la technophobie. Moi, je considère que pour qu'il y ait des lacs aux eaux pures, il faut des stations d'épuration. Pour qu'il y ait la forêt de Fontainebleau, il faut qu'il y ait des forestiers, des eaux et forêts, un service technique et des décisions politiques, celles qu'avait prises Colbert, par exemple. Et c'est pourquoi, dans mon livre, j'appelle une sorte de coprésidence du terreau et de l'horticulteur, parce que pour faire pousser les roses, faut des sécateurs, d'accord ? Autrement dit, je pense que si l'homme a une histoire, c'est parce qu'il n'est pas seulement sapien, c'est parce qu'il est Faber. Voilà. Donc, là-dessus, nous avons peut-être une différence, une vieille différence, mon cher Alain. L'arraisonnement du monde me semble faire partie de la civilisation de l'homme, pour oui. aller vite.
Bon. Oui, bien sûr, mais on constate, Régis Debray, avec les éoliennes, que l'écologie devient un avatar de la civilisation industrielle, dont elle se prétend la critique, puisque le paysage industriel pénètre même la mer. Premier constat, mais là vous avez raison, il ne faut pas tomber dans la technophobie, simplement il faut pouvoir dire que la technoscience n'a pas le monopole du vrai, c'est tout. C'est-à-dire, il doit y avoir place pour aussi un regard non technique, un rapport non technique à l'être. Et voilà, et or ce rapport-là, aujourd'hui n'existe pas, il est même banni de la sensibilité écologique dominante, et c'est mon seul regret. Mais je passe la parole à Olivier Rey.
Oui, sur la question de la technophobie, j'ai déjà avancé auparavant la distinction que je fais entre technique et technologie, parce que si vous voulez, si on range absolument tout sous le même chapeau de technique, ce qui va de l'homme préhistorique qui fait du feu en frappant deux silex l'un contre l'autre et la centrale nucléaire, je pense qu'on manque quelque chose. Pendant longtemps, la technique, ça a été constituée de savoir-faire qui se transmettait de génération en génération avec de légères améliorations et qui était quelque chose qui était une manière d'habiter le monde. Il y a un terme que j'ai beaucoup aimé, Régis Debray, dans votre écrit, c'est quand vous parlez de l'être humain comme maisonnable, non seulement raisonnable, mais maisonnable. Et pendant longtemps, la technique a précisément été quelque chose qui permettait d'habiter la terre, d'y construire sa maison. Mais aujourd'hui, avec la technologie actuelle, c'est plus du tout le cas. Et précisément, la technique qui aménageait la maison, on se retrouve avec une technologie qui la démolit. Raimé Semprin, d'ailleurs, dans L'Abîme se repeuple, fait une très très belle comparaison de ce point de vue-là. Il parle d'un homme qui construit sa maison, il fait un étage, deux étages, et puis lui dire, c'est bien, il continue, et puis il fait une tour de 1000 étages. Et puis, si on lui dit, mais c'est complètement fou, il dit, je continue. Mais en fait, c'était vraiment le thème central de ce que j'avais essayé d'exprimer dans Une question de taille. C'est-à-dire que, en fait, il peut y avoir des choses qui sont bonnes au départ et qui deviennent mauvaises simplement parce que ça n'est pas le mal n'est pas dans le principe, mais dans son degré d'application. Donc, je suis loin d'être technophobe, mais je suis technologico-phobe, si vous voulez.
Non, mais ah oui. quand on est dans l'hubris, on veut retrouver la physis, c'est-à-dire quand on est dans l'exagération, on veut retrouver le sens de la mesure que vous défendez si bien par ailleurs. Je suis d'accord. Mais si vous voulez, pour moi, le problème écologique, c'est le fossé qui existe entre ce que nous savons, d'un côté, en gros, les bilans et les prévisions du GIEC, entre ce que nous voulons et entre ce que nous pouvons. C'est pas parce qu'on sait qu'on veut. Ceux qui veulent le plus, ils peuvent le moins. C'est la France, si vous voulez. Hein. 1% des émissions d'effet de serre. Et ceux qui pourraient le plus veulent le moins, c'est-à-dire les États-Unis, l'Inde, etc.
Et la Chine.
Et la Chine. Donc, comment ajuster ce que nous voulons à ce que nous savons et ce que nous pouvons à ce que nous voulons? Ce que nous voulons, c'est un problème politique, c'est un problème de choix. Est-ce qu'il faut choisir entre l'ours dans les Pyrénées et l'éleveur de moutons? C'est un choix. Mais par ailleurs, à supposer même qu'on résout ce problème de valeur, il reste à savoir les capacités que nous avons de changer les choses. Et le drame, c'est que le risque écologique, c'est un risque planétaire qui n'est pas ressenti comme un risque individuel. Donc, nous avons une sorte de fossé, si vous voulez, entre ce qu'il nous faut penser et ce que nous pouvons vivre. Notre mode de vie ne change pas comme notre mode de pensée. Et je crois que c'est le drame des politiques, de ne pas reconnaître ce hiatus entre ce qu'on sait, ce qu'on veut et ce qu'on peut. Mais je suis d'accord avec vous, Alain, tellement de bras pour transformer le monde et si peu de regards pour le contempler. Voilà ce que mon maître Julien Gracq répétait parfois.
Mais il y a aussi quelque chose qui nous piège, c'est que en fait les sociétés traditionnelles étaient des sociétés qui étaient structurellement stables. Ce qui ne voulait pas dire qu'elles ne changeaient pas, mais elles n'avaient pas besoin de changement pour perdurer. En revanche, les sociétés modernes qui se sont mises en place sont structurellement instables, c'est-à-dire qu'elles ont besoin d'une évolution permanente et même accélérée pour ne pas s'effondrer. Et s'est mis en place au fil du temps un système économique où le choix n'est pas entre la croissance et la stabilité, mais entre la croissance et l'effondrement. Et j'avais trouvé une citation que je trouve qui devrait faire réfléchir de l'ancien Premier ministre britannique Edward Heath. Il a été Premier ministre au début des années 1970. Il faisait remarquer ceci à ses compatriotes. Il disait « L'alternative à la croissance n'est pas, comme certains semblent le supposer, une Angleterre tranquille de petites villes reliés par des trains à vapeur avançant doucement avec leur panache de fumée à travers de vertes prairies, mais des bidonvilles, des routes dangereuses, des usines délabrées, des écoles exiguës, des vires abougries. » Et en fait, c'est précisément la situation tragique dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire que nous sommes tellement drogués à la croissance que l'arrêt de la croissance, si vous voulez, n'est pas de retrouver une forme de stabilité, mais de s'effondrer. Et effectivement, là, on se retrouve devant une alternative très compliquée.
C'est en effet la difficulté qui est la nôtre, parce que la morale qui semble s'imposer aujourd'hui au niveau collectif et individuel, à tous les niveaux, le niveau individuel, niveau national, niveau international, c'est une morale et une politique de la mesure, de la limite. Or, il est vrai, nous ne sommes pas faits comme ça. Victor Hugo le disait déjà dans Les Travailleurs de la mer, tout borne l'homme, rien ne l'arrête, à la limite, il réplique par l'enjambé. Et c'était un immense progrès, et c'est vrai, admirable, par beaucoup de côtés, dont nous sommes évidemment les bénéficiaires aussi, mais c'est devenu un processus, c'est vrai, et nous sommes emportés dans ce processus, et donc nous ne savons pas comment faire pour évidemment, fixer des limites. Nous sommes démunis devant cette tâche, alors même qu'elle nous semble devenue absolument urgente. Régis Debray.
Oui, mais pour vous rassurer, je vous dirais que les autoroutes réhabilitent les GR. Je vous dirais que la trottinette revient parce qu'il y a des voitures. Je vous dirais qu'il y a ce qu'on appelle un effet jogging, c'est-à-dire que on craignait que les automobilistes deviennent des hommes troncs, et ben ils courent plus que jamais, ils joguent partout. Autrement dit que dès qu'on est dans une certaine démesure, il y a une sorte de réenchantement, si vous voulez, de l'échelon préalable. Cette hubris, elle se corrige elle-même, si vous voulez, par une sorte de thermostat intérieur qui fait que, au fond, on a une sorte toujours de réenchantement de ce qu'on a perdu. Et c'est un peu ce qui se passe. Autrement dit, je crois qu'il y a un thermostat intérieur. Donc je suis moins anxieux que vous. Mais puisque vous avez cité Victor Hugo, c'est tout de même lui qu'il faut toujours citer. À un moment donné, il dit, oui, l'homme, c'est trois choses. Il faut qu'il croie, c'est le temple. Il faut qu'il crée, c'est la cité, et il faut qu'il vive. c'est la charrue. Et c'est vrai, nous avons beaucoup cru, nous avons beaucoup créé, et maintenant nous découvrons qu'au début de tout, il y a le vivant. Au fond, moi, si vous voulez, moi je suis très écologique en ce sens qu'il fallait en finir avec l'humanocentrisme, si vous voulez, avec l'idée d'un homme insulaire, indépendant, en surplomb, au-dessus de tout, en oubliant qu'il est d'abord un être biochimique. Mais je dis simplement, attendez, c'est un animal, d'accord, c'est un primate, d'accord, mais pas exactement comme les autres. D'abord parce qu'il a une histoire et que les animaux n'en ont pas. Donc, c'est ça ce que je crains, si vous voulez, c'est le fétichisme de la nature. J'ai peur que ça nous fasse tourner le dos, simplement, à la civilité.
Olivier Rey, et j'aurai une réponse à faire.
Oui, peut-être un point que j'aimerais aborder, c'est quand même un problème spécifique qu'a la modernité avec le vivant en général. J'ai été très frappé en lisant la physique d'Aristote, que lorsque Aristote fait la liste de ce qui est, selon lui, les objets de la physique, il dit les objets de la physique sont les animaux, les plantes, et puis les éléments terre, air, eau et feu qui viennent à la fin de la liste. Mais ça veut dire qu'en fait, Aristote pense le monde à partir du vivant. C'est d'ailleurs pour cela que sa physique de l'inanimé est assez pauvre et pas très intéressante. Et d'ailleurs, mais le fait de penser la physique à partir du vivant, c'est absolument logique, parce que physis en grec, ça vient de fuyène, qui voulait dire croître, naître, pousser. Mmh. Et d'ailleurs, c'est la même chose dans la nature qu'on hérite du latin, puisque nature, ça vient de nascor, qui est naître. Nature, ça va avec nativité. Bon, Galilée arrive et dit le livre de la nature est écrit en langue mathématique, et à ce moment-là, il donne comme programme à la science moderne de découvrir les structures mathématiques sous-jacentes au phénomène. Mais pour lui, il a encore l'idée d'une physique générale, puisque pour lui, tout est écrit en langue mathématique, vivant comme inanimé, mais il va se trouver dans les faits que pour l'inanimé, ça va marcher quand même assez bien. On va trouver des tas de lois mathématiques pour rendre compte de tas de phénomènes. Mais quand on arrive au vivant, en fait, ça ne marche pas. Et quand Kant, dans sa troisième critique, enfin, c'est un des points centraux abordés par Kant dans sa troisième critique, la critique de la faculté de juger, c'est de dire il n'y aura jamais de Newton du brin d'herbe. C'est une phrase qui est quand même frappante. Et alors, qu'a fait la biologie moderne? Elle est partagée, si vous voulez, entre d'un côté son objet qui est le vivant, et de l'autre côté son idéal de science moderne qui voudrait le machiniser. Et ce qu'a fait la biologie moderne en faisant le tournant vers la biologie moléculaire et la génétique, c'est de repérer des mécanismes à l'intérieur du vivant, de chimiser le vivant, etc., mais de ne jamais appréhender le vivant en tant que tel. La science moderne a un énorme problème avec le vivant, et je me demande si d'une certaine manière le biocide ne commence pas là.
Oui, mais justement, elle a un problème, mais elle le machinise. Les animaux machines, c'était une rêverie de Descartes, et c'est aujourd'hui inscrit dans ce que Jocelyne Porcher appelle la production animale. On produit des animaux, on les fabrique. Régis Debray.
Oui, là, je crois que vous mettez l'un et l'autre le doigt sur le point central. Il y a une hubris technologique qui consiste à vouloir remplacer tout ce qui pousse par tout ce qui se fabrique.
Voilà, c'est ça.
Et ça me semblait effectivement le transhumanisme dont vous êtes un bon critique. Et là, nous avons quelque chose qui est terrifiant, qui est, je dirais, une anti-nature en axe que j'appelle le fausse, quoi, cette époque faustienne qui déserte l'Europe, qui émigre en Californie, n'est-ce pas, avec cette idée que l'on peut, fabriquer un homme et non pas le faire croître. Et là, je pense que il est peut-être pas mauvais d'être écologique en nous rappelant que l'herbe, ça pousse, ça ne se fabrique
oui
pas.
Oui et non. Enfin, il y avait un vieil adage qui disait qu'on ne fait pas pousser l'herbe en tirant dessus. Et en fait, aujourd'hui, avec les OGM, avec les pesticides, avec les phosphates, etc., en fait, il y a cette idée que l'herbe, c'est quelque chose qu'on fait pousser en tirant dessus.
Il s'agit de l'herbe, il s'agit aussi du monde animal. Et en vous écoutant, Régis Debray, je pensais à ces phrases d'un philosophe que je crois vous avez bien connu, François Dagonier. Et celui-ci dit, mais avec une sorte d'optimisme presque emphatique. Désormais, on instaure et suscite la nature. Le faire se substitue à l'être. Le laboratoire crée, il ne contemple plus. Le faire se substitue à l'être. Nous en payons les conséquences, parce que nous ne savons pas où ça va. Et là, un autre de vos auteurs favoris, Valéry, dit « L'homme sait ce qu'il fait, mais il ne sait jamais ce que fait ce qu'il fait ». Et nous en sommes là, nous pensons que ça va trop loin. Mais là, il y a peut-être une contradiction chez certains écologistes, ceux qui invoquent Gaïa, notre terre-mère, qui disent, en parlant des animaux, les autres animaux, par exemple. Nous sommes des animaux. Non, c'est absolument insensé de parler ainsi. La nature n'est pas notre mère, elle est à notre merci. Nous sommes attachés à elle par sa vulnérabilité, par la fragilité dont elle témoigne. Donc, ce qui naît en nous, c'est une responsabilité que seul, évidemment, un être humain peut revendiquer. Et de même vis-à-vis des animaux. Nous en faisons trop avec eux. L'élevage en batterie est une véritable horreur. Et mais ça, c'est l'homme qui, en tant qu'homme, peut le savoir. Donc ça, je vois une contradiction dans l'écologie que de parler d'antispécisme et de refuser tout privilège à l'homme, alors que précisément, on doit insister sur l'extrême singularité de la responsabilité humaine aujourd'hui. Régis Debray.
Mais vous parlez d'or, mon cher, là. D'abord parce que cette idée, n'est-ce pas, qu'on puisse attribuer un rôle normatif aux lois naturelles, c'est-à-dire qu'on veuille prendre pour régulatrice les lois de l'ordre naturel des choses, ça mène au pire, bien sûr, hein. Ça mène à la lutte pour la vie, ça mène au darwinisme social, ça mène à l'élimination des faibles. Donc, oui, là, je m'insurge. Je suis pas le seul, par chance. Alors, oui, ce que vous avez dit de François Dagonier peut s'expliquer. Il était un philosophe de l'objet. Il était un philosophe matérialiste et il voulait redonner, contre Heidegger, il voulait redonner son prestige et sa gloire à la fabrication. Bon, comme toujours, il a tordu le bâton dans l'autre sens pour le remettre droit. Bon. Mais vous savez, il y a un philosophe en France qui a inclus les animaux dans l'humanité, c'est Auguste Comte. Quand il parle de la religion de l'humanité, il dit « Mais attendez, l'humanité, c'est aussi les chevaux, les vaches et les chiens. » C'est-à-dire que lui qu'on prend pour un positiviste, etc., il était tout à fait conscient que on ne peut pas séparer le règne humain du règne biologique, animal en particulier. Mais enfin, il avait tout de même un point fondamental, c'est que l'homme a une histoire et il a besoin de religion. Donc,
la différence était maintenue.
La différence était maintenue et elle est cruciale. Le monde animal, c'est celui de la répétition. Le monde de l'homme, c'est celui de l'histoire.
Mais la sacralisation de la nature dont vous parlez est l'inverse de ce qui s'est passé aussi, c'est-à-dire de ce dont parlait Régis Debray auparavant, de l'insularisation de l'être humain par rapport à la nature. Et donc, en fait, c'est l'avers et le revers. Et si l'avers est mauvais, le revers est également mauvais. C'est comme une photo où si une photo est mauvaise, son négatif va l'être également. Mais quand moi j'avais relevé des phrases programmatiques de Diderot dans son encyclopédie. C'est vraiment des phrases programmatiques, puisque c'est dans l'article encyclopédie. Il dit « L'homme est le terme unique d'où il faut partir et auquel il faut tout ramener ». Voilà, bon. Et juste après, il ajoute « Abstraction faite de mon existence et du bonheur de mes semblables, que m'importe le reste de la nature ?» Bon, et là, on voit qu'à ce moment-là, toutes les exactions sont possibles. Et donc, en fait, la sacralisation de la nature qu'on peut critiquer aujourd'hui, en fait, elle est l'exact miroir de ce que disait Diderot. Et par ailleurs, il y a un auteur qui me semble utile pour penser ce qui s'est passé au cours des derniers siècles vis-à-vis de la nature, c'est René Girard. En fait, René Girard dit que un des grands moyens dont disposait l'humanité pour réguler la violence qui la traverse et le risque perpétuel d'anéantissement d'une société par les violences humaines, c'était à un moment donné la conversion de la violence de tous contre tous en violence de tous contre un avec le mécanisme de la victime émissaire. Ce que dit Girard aussi, c'est que le christianisme a en partie grippé le mécanisme justement en révélant le fonctionnement. Mais que s'est-il passé au cours des derniers siècles ? C'est que finalement, privé de cette régulation par le sacrifice, on a trouvé quand même une victime émissaire de substitution qu'a été la nature. Et puisque Régis Debray évoquait Auguste Comte, je peux citer Auguste Comte qui disait qu'il imaginait la société régénérée dans le nouvel état scientifique ou positif, comme il l'appelait. Il disait que l'action collective que dans l'état actuel de toutes leurs connaissances, les hommes civilisés peuvent exercer sur la nature pour la modifier à leur avantage, en dirigeant toutes leurs forces vers ce but et en envisageant les combinaisons sociales que comme des moyens d'y atteindre, voilà quel était le programme qu'il fixait à la société régénérée. Et donc là, on voit qu'en fait, toute l'humanité doit trouver une paix intérieure en se liguant pour la domestication de la nature. Il se trouve que après deux siècles, la nature n'en peut plus, saoulée de coups, elle est en passe d'expirer.
Elle est en passe d'expirer. Moi, je suis pas tout à fait convaincu par la thèse girardienne. On avait besoin d'une victime émissaire. Il faut prendre le projet moderne au sérieux. Hein. Il s'agit quand même de dominer la nature pour améliorer le sort des hommes. Et ça a été longtemps vrai. La science a amélioré les conditions de la vie sur Terre. Ce mouvement apparaissait irrésistible et cumulatif. Et on a cru dans une croissance indéfinie, dans la félicité technique. Mais il s'agissait pas de faire du mal à la nature pour le plaisir de lui faire du mal ou pour trouver une victime. Il s'agissait de nourrir les hommes. Mais maintenant, tout est remis en question du fait que la nature expire et que le monde devient de moins en moins habitable. Et voilà, ça c'est quand même une remarque que je voulais faire et un témoignage d'admiration malgré tout pour ce qu'a été le projet moderne. Régis Debray.
Vous savez, le projet moderne, c'était faire triompher la raison contre la superstition, c'est-à-dire faire triompher la ville contre les campagnes. D'où viennent les superstitions ? De la campagne. Hein, la campagne, c'est le païen. C'est ce qui doit être discipliné par l'urbanisation et l'histoire de la pensée moderne, c'est l'aspiration à sortir de la campagne pour sortir de la superstition, sortir de la croyance. Bon, effectivement, on s'est tellement urbanisé que l'on a besoin de retrouver paradoxalement de l'urbanité en dehors des villes, c'est-à-dire de retrouver une sorte d'équilibre dans la nature. Là, encore une fois, on retrouve ce phénomène de thermostat, si vous voulez. Bon, c'est-à-dire de rééquilibrage à partir d'un déséquilibre. Mais c'est en quoi je dis que nous vivons bien une révolution, c'est-à-dire une inversion, fallait dire, du bien et du mal. Enfin, je n'aime pas trop ce langage, mais la ville n'est plus le bien, la campagne n'est plus le mal.
Mais est-ce qu'il n'est pas trop tard ? Parce que on a affaire à une rurbanisation, le néologisme est très parlant, et même un devenir banlieue de la surface habitée. C'est-à-dire que on peut effectivement retrouver les vertus à la campagne, renverser la proposition qui était celle du projet moderne, ou en tout cas des Lumières, mais on le fait sans que cela puisse se traduire dans la réalité, et cela peut d'autant moins se traduire que nous restons progressistes, que le progressisme aujourd'hui est sociétal, c'est-à-dire il consiste dans l'extension illimitée des droits individuels. Hein, et les droits individuels, d'ailleurs, qu'appuient les écologistes. On le voit avec la progression médicalement assistée offerte à toutes les femmes et la gestation pour autrui qui trépigne dans la salle d'attente et qui déploie déjà sa banderole de lutte contre l'inégalité. Donc, comment, si vous voulez, penser la limite dans le langage des droits de l'homme ? Ça paraît impossible. Donc, est-ce que ce ne sera cette révolution n'est pas condamné à rester purement verbal. Je vous pose la question à tous les deux.
Oui, alors, juste une toute petite précision sur ce que j'ai dit de Girard. Girard n'a pas dit que le projet moderne, c'était de taper à bras raccourcis sur la nature. Mais objectivement, rétrospectivement, on peut s'apercevoir que quelque chose de cela s'est produit. Par ailleurs, vous soulignez effectivement un très grand paradoxe qu'il y a encore une fois aujourd'hui dans l'écologie politique, et où on voit que l'écologie politique, qui tout en prétendant réconcilier l'homme avec la nature, perpétue aussi cette insularisation de l'homme, puisque d'un côté la nature est ce qu'il faut respecter, mais par ailleurs l'être humain en fait n'a pas de nature et il est de la pâte à modeler qu'on peut façonner totalement à sa guise. Et donc, en fait, c'est là où on voit à quel point, dans l'écologie politique, aujourd'hui se perpétue le même type de rapport à la nature que celui qui est critiqué, avec toujours cette séparation entre l'extérieur, alors qu'auparavant, sur laquelle on pouvait auparavant tout se permettre et que aujourd'hui il faudrait absolument respecter, mais en revanche de l'autre côté, du point de vue de l'être humain, absolument toutes les entreprises sont possibles. Rendez compte que par exemple c'est une affaire qui a défrayé la chronique dernièrement. Là, on a parlé de Mazneff et de ses exactions vis-à-vis des très jeunes filles, et on se dit mais voilà, une jeune fille de 12, 13, 14 ans, en fait, quand elle est consentante, en réalité, ce n'est pas un vrai consentement. Mais aujourd'hui, un enfant de 11 ou 12 ans peut décider d'enclencher un phénomène de changement de sexe. Donc, si vous voulez, à 12, 13, 14 ans, vous n'êtes pas à même de vous lancer dans une sexualité avec un adulte, mais en revanche, vous êtes suffisamment mûr pour décider le changement de sexe, et cela défendu, effectivement, par l'écologie politique.
Régis Debray.
Oui, vous avez mis le doigt sur l'essentiel. Est-ce que c'est trop tard? Vous pensez que c'est trop tard?
Je m'interroge.
Je m'interroge aussi. Alors, c'est vrai que est-il trop tard pour pouvoir réaliser ce que nous voudrions réaliser? Est-il trop tard pour pouvoir adapter nos volontés à ce que nous savons? C'est le problème. Mais je dirais tout de même, nous sommes pessimistes, parce que nous sommes intelligents tous les trois. Bon.
Parlez pour vous.
Mais je dirais, contrairement à vous, qu'il y a tout de même un motif, j'allais dire d'espoir, excusez-moi, le mot est un peu convenu. Parce que nous avons appris l'humilité, si vous voulez. Avec la fin de l'homme, l'homme en surplomb, l'homme au-dessus de la nature, nous savons que nous sommes dépendants de quelque chose qui n'est pas totalement dépendant de nous, parce que les lois de la nature n'obéissent pas à nos prières. Donc, avec ce sentiment de dépendance, nous acquérons un sentiment de fragilité. Et je dirais que là où il y a de la fragilité, il peut y avoir de la fraternité, c'est-à-dire au fond d'une sorte de destin commun. Moi, je trouve que si l'écologie nous apprend la modestie, je trouve ça bien, si vous voulez, voilà. Si elle nous fait sortir d'un certain orgueil, disons cartésien, pour aller vite, redécouvrir que nous ne sommes pas Dieu, que nous sommes en situation de précarité, que les sources d'énergie ne sont pas infinies. Moi, je trouve que c'est une leçon de modestie que je trouve assez bienvenue.
Assez bienvenue, cette leçon de modestie. Pourra-t-elle s'inscrire dans les faits? Nous le verrons. Et là, je vais vous poser une question simple qui m'est inspirée par l'émission Vous avez la parole, que j'ai vue jeudi soir. François Fillon était interrogé par Léa Salamé. Deux photos sont apparues sur l'écran. La photo de Donald Trump et la photo de Greta Thunberg. Et François Fillon a été sommé de choisir, puisque les deux... ces deux personnages planétaires ont été confrontés à Davos. Alors, je vous pose la même question. Qui choisissez-vous? Donald Trump, le climato-sceptique, ou Greta Thunberg? Et que pensez-vous de l'alternative dans laquelle nous sommes aujourd'hui placés par la doxa, très influente, très inquiète, et qui se veut écologiste? Greta, donc je passe pas la parole à Greta Thunberg, je la passe à Olivier Rey.
Oui, mais alors là, l'alternative dont vous me parlez, ça me rappelle quelque chose qui me tourmentait quand j'étais enfant, parfois avant de m'endormir, je pensais à cette question qu'on pose d'ailleurs assez classiquement aux enfants, qui tu préfères, papa ou maman? Et en fait, on n'a pas du tout envie de choisir.
Pouvait, là, on pouvait aimer les deux.
Voilà. Tandis et que, bah là, on peut, là, on peut ne pas aimer les deux.
Ah enfin, oui, d'accord.
Voilà, vous voyez, c'est symétrique. Moi, j'ai pas envie de choisir entre papa et maman. J'ai pas envie de choisir.
Que pensez-vous de la promotion de cette adolescente suédoise en porte-voix de l'inquiétude écologique planétaire?
Bah, quand on sait l'usage que les régimes totalitaires ont fait des enfants pour terroriser les adultes, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de profondément malsain et inquiétant dans les périples de cette adolescente poupine et accusatrice, et dans les tribunes nationales et internationales qui lui sont complaisamment offertes. Cela étant, je pense qu'il faut faire attention, j'avais essayé d'écrire ça aussi dans un article, de ne pas confondre la réalité ou l'irréalité des faits avec la sympathie ou l'antipathie que suscite la personne qui les énonce. Et là, je me référais à Saint Clément d'Alexandrie, qui remarquait que même au diable, il arrive de dire des vérités, et il mettait en garde, il ne faut pas sottement condamner d'avance les paroles à cause de celui qui les prononce. Ça n'est pas parce que Greta Thunberg invoque le GIEC que les conclusions du GIEC peuvent être mises à la poubelle, comme le fait Donald Trump.
À Régis Debray. Oui. Qui choisissez-vous?
Mourir du choléra ou mourir de la peste? Évidemment, je préférais survivre, si vous voulez. Cela étant dit, c'est vrai qu'on peut considérer dans la sacralisation de cette adolescente un symptôme, je dirais, inquiétant. On pense un peu, quand on voit que je lisais ça dans je ne sais plus quel journal, que l'élite économique de Davos se cherchait une âme, et elle a trouvé une âme en la personne de Greta Thunberg. Je pense au texte de Marx, l'âme d'un monde sans âme. Je pense que là, nous avons une sorte de retour religieux inquiétant, d'abord pour l'espèce des adultes, qui tout de même très menacée aujourd'hui, la promotion de l'enfance, la promotion, je dirais, de l'ignorance, de la naïveté, du pulsionnel, tout ça est inquiétant. On peut dire que là, il y a un retour du naturel, et j'aimerais rester civilisé.
Oui, et d'ailleurs, une expression qui va de pair avec la promotion de cette adolescente, c'est « ok, boomer ». Ok, boomer, c'est-à-dire tu es un boomer, tu viens de parler, mais on n'en a strictement rien à faire parce que les boomers, que les baby boomers, etc., vous avez salopé la planète, dégagé. Donc c'est même une rupture entre les adultes et les enfants, mais moi je vois un plus large problème, si vous voulez, parce que quand même ce qu'a dit Greta Thunberg, c'est ce qu'elle a inventé, c'est la grève des cours. Nous ferons de vos devoirs quand vous ferez les vôtres. Et Denis Kambouchner, dans un livre récent, dit que la finalité de l'école, c'est de donner les mots. Et c'est très beau, donner les mots. Donner les mots pour voir. Et pour voir ce qui disparaît, les abeilles, les oiseaux, etc. J'ai ici un très beau texte de Chateaubriand que vous citiez tout à l'heure, Régis Debray, sur le printemps en Bretagne, et l'hirondelle, le loriot, le coucou, la caille, le rossignol, les marguerites, les pensées, les jonquilles, les narcisses, les hyacinthes, les renoncules, etc. Tous ces mots que nous ne connaissons pas et qui nous empêchent de voir et de voir ce qui disparaît. Donc là, nous retrouvons la dimension esthétique de l'écologie, mais pour y avoir accès, il faut une éducation de la sensibilité. Et c'est pas donc des enfants qui peuvent justement témoigner de cette nécessité-là.
Ah ben ça, je suis entièrement d'accord.
Des adolescents.
Mais il faut aussi voir que Greta Thunberg, c'est un phénomène médiatique. Qui est utilisé aussi pour faire semblant qu'on s'occupe des problèmes sans rien faire du tout. Bon, par exemple, une grande mesure qui a été décrétée dans l'Union européenne, c'est qu'on allait supprimer les pailles, les touillettes pour les gobelets de café et les cotons-tiges. Bon, le WWF parce que là, on est submergé de déchets plastiques. Mais le WWF a calculé que étant donné les investissements récents qui avaient été faits dans les usines productrices de plastique, en 2030, on produira 40% de plus de plastique qu'aujourd'hui. Donc, si vous voulez, Greta Thunberg, quand elle est venue à l'Assemblée nationale en France, c'était le jour même où on signait le CETA. Je pense que ce n'est pas une coïncidence totalement fortuite. Donc d'un côté, on fait un traité de libre-échange qui va intensifier les échanges mondiaux et avec toutes les retombées négatives qu'il peut y avoir sur la nature. Et puis de l'autre, on offre une tribune à Greta Thunberg. Si elle est invitée à Davos, c'est pas pour rien.
Bah, c'est la fonction religieuse, n'est-ce pas ? C'est l'âme d'un monde sans âme, c'est-à-dire.
Oui, mais enfin, c'est aussi
une consolation,
le business. Mais
évidemment,
jugeant,
à la fois une consolation et une sublimation d'un état de choses existant. Vous parliez de Chateaubriand et de la Bretagne. Tout change en Bretagne, sauf les vagues qui ne changent pas. Donc, le mot est de Chateaubriand. Maintenant, cette jeune Suédoise dont vous parlez, elle dit des évidences, cela dit, mais comme elle n'apporte aucune solution, elle sert simplement, me semble-t-il, de bonne conscience, et non pas du tout, elle n'ouvre aucune voie d'avenir.
Donc, voilà, et nous avons cherché des voies d'avenir ensemble. Merci beaucoup Régis Debray, merci beaucoup Olivier Rey. Je rappelle, Régis Debray, que votre dernier livre s'intitule « Le siècle vert, un changement de civilisation » qu'il est publié dans la collection Tracts Gallimard. Et je cite aussi ce livre d'Olivier Rey, « Une question de taille » chez Stock. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « Présence de Camus ». Mes invités seront Vincent Duclerc et Vincent Trémollet-Villers. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Hochard et François Connac. À la technique aujourd'hui, Bastien Varigaud. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.